l'école. Martin Kénéen.
Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir est un soir de fête, et avant de faire le décompte des dernières secondes de l'année, plus ou moins ivre, vous aurez dîné. Et le dîner de la Saint-Sylvestre est l'occasion d'un repas de fête, que ce soit chez vous, dans les restaurants. On met chacun à sa façon, chacun selon ses moyens, les petits plats dans les grands. Et Rue des Écoles aussi, qui vous invite rien moins que dans la grande école de la gastronomie française, histoire de faire d'un soir de fête un objet de savoir. Nous vous offrons une Saint-Sylvestre à l'école Ferrandi. Et à l'instar de ce qu'Antonin Carême, grand pâtissier, disait de la pâtisserie, qui a à voir, à faire avec les beaux-arts, eh bien, cerise sur le gâteau, en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert se fera en compagnie du galeriste d'art contemporain, Kamel Menour.
Un restaurant d'application, vous avez la cuisine de production et juste avant, vous avez l'espace froid et la pâtisserie. Donc, on est sur des sections, vous avez un enseignant pour 14-15 élèves. Donc, c'est l'objectif de la formation, c'est vraiment, et de l'école, c'est vraiment une école professionnelle qui permet aux élèves de pratiquer. Voilà.
Audrey Jeannet, nous sommes au quatrième étage de l'école Ferrandi. Et ce quatrième étage est dédié tout entier à ce qu'on appelle les bachelors, à celles et ceux qui font des études supérieures de gastronomie et de management de l'hôtellerie. Et nous sommes à l'orée d'un lieu un peu particulier qui est comme l'aboutissement de tout ce processus pédagogique, éducatif et gastronomique. C'est le 28.
Oui, le 28 est, est un des restaurants pédagogiques de l'école Ferrandi. Le 28 est destiné aux étudiants bachelor, donc bachelor art culinaire option cuisine ou pâtisserie, et les bachelors en management hôtelier et restauration. Donc ce sont des études supérieures, ce sont des bac plus 3, qui viennent d'obtenir le visa de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, de la Recherche et de l'Innovation, et on forme des futurs créateurs d'entreprises. Donc vous avez à la fois dans ces cursus de la pratique, en laboratoire ou au sein du restaurant ou dans des hôtels, et à la fois de l'enseignement général pour leur apprendre à créer ou reprendre une entreprise. Le restaurant d'application est ouvert au public pour que les jeunes puissent s'exercer comme en entreprise.
On se dépêche un peu de nuit dans 25 minutes. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici là ?
Alors, tu me mets
mes grands couverts, couverts en premier, dans l'autre.
Grande cuillère, grand couteau, grande fourchette. Cuillère entre mes couteaux, entre mes couteaux, entre mes. Dans l'autre, tu me remets les couverts entre mes ici. Et couvert à poisson à suivre. Ça marche ?
Qu'est-ce qui se passe ici, là ?
Ça, c'est la section en bachelor. Management hôtelier restauration de l'école. Alors, donc là, ils sont sur la mise en place du restaurant. Pour chaque activité, vous avez un enseignant là en pâtisserie qui est meilleur ouvrier de France, un autre enseignant en cuisine et un enseignant ici pour le côté salle. Bonjour Dominique. Je suis avec l'équipe de France Culture qui réalise un sujet sur l'école. Donc Dominique Way est enseignant formateur pour la partie Food and Beverage et Hospitality Management. Donc c'est lui qui suit les étudiants aujourd'hui pour la préparative du restaurant d'application.
Voilà, pour que ça se passe bien.
Voilà.
Alors, Dominique Way, on vous entend crier sur vos troupes comme un entraîneur. Il se trouve que derrière vous, il y a un tableau blanc avec ce qui ressemble à une feuille de match ou un schéma de stratégique.
Oui,
pour attaquer la journée.
Ce qu'on appelle la carcasse, donc nous avons le dessin de l'ensemble du restaurant avec les positions de chacun. En principe, il est 10h05 Et à 10h30, la mise en place doit être terminée, de façon d'avoir une heure pour expliquer, redonner l'information sur le menu, sur le poste de chacun. Et je dois leur montrer au niveau de la pédagogie l'ouverture des bouteilles, débarrasser les tables, faire les miettes, revoir certaines choses, de façon qu'à 11h30, ils puissent aller déjeuner dans des bonnes conditions. Donc je forme cette équipe de managers première année, qui sont en food and beverage and hébergement, donc la nourriture et l'hébergement. Et le but, c'est de leur apprendre les bases de la restauration pendant leur première année, et qu'à la fin de cette première année, ils soient autonomes dans le service. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année scolaire, qu'ils puissent faire l'ensemble de ce travail sans que j'aie à m'exprimer. L'idéal.
On se dépêche, on peut être mis dans 25 minutes. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici?
Notre réserve est très petite. Très petite. Une, deux, trois grandes.
Trois grandes, et après, là, il en faut une moyenne pour les quatre. Ou sinon, on prend deux petites. Mais il vaut mieux une moyenne.
Une moyenne. Ou alors une grande. Et là, pour 8, il ne faudrait pas deux. Une petite et deux grandes.
Une longue. Si. Bah, 8, là, t'as 4. Là, t'as. Non. Oui, on fait deux pour ça.
Hortense, Céline, vous êtes devant la carcasse du restaurant, donc ce tableau blanc avec indiqué en particulier les tables dont vous êtes responsable. Et alors on vous entend faire des calculs savants, c'est quoi, c'est un problème de mathématiques, c'est grande, c'est petite, c'est moyenne?
Non, en fait c'est pour les milliardistes qu'on donne avec le café. On les pose sur des ardoises,
comme celle-ci,
voilà, comme ça. Et on met c'est une ardoise pour tout le monde. Du coup il faut évaluer la taille de l'ardoise en fonction du nombre de clients autour de la table. Pour pas mettre une petite ardoise pour une personne ou une grande ardoise pour une personne.
Est-ce que en guise de carte de vœux pour nos auditrices, nos auditeurs, vous nous donneriez le menu d'aujourd'hui au restaurant le 28 de l'école Ferrandi? Céline?
Donc en amuse-bouche, on a un velouté de petits marrons avec des trompettes de la mort et un siphon de pommes de terre.
On a une première entrée avec des noix de Saint-Jacques.
Et on a une deuxième entrée, c'est un brûlé de poireaux avec un tartare d'huître et des algues selon Eric Fréchon.
On a une soupe déstructurée d'oignons.
Après, nous proposons quatre plats. Deux avec de la viande avec un poisson et un végétarien.
Et après, nous avons donc les desserts. On a un dessert, c'est une ganache chocolat avec à l'intérieur un insert à la passion.
On a également un dessert qui est composé d'un chocolat chaud avec une écume de lait sur le dessus, un biscuit avec des zestes d'orange, de marron et une glace à la clémentine.
On a une tarte tatin de coing revisitée, donc la pâte de la tarte est au sarrasin.
Et pour finir le repas, on vous propose une milliardise. Donc nous vous proposons une bouchée pomme grenade.
On a aussi une ganache chocolat posée sur un petit morceau de nougatine et un macaron vanille avec un insert pamplemousse à l'intérieur.
Voilà. Et ça, c'est le repas d'aujourd'hui, le menu d'aujourd'hui. Ça veut dire que tous les jours, vous devez apprendre par cœur des choses aussi longues, savantes et prometteuses.
Le menu, il est établi pour une semaine. Après, quand on fait des services le soir, le menu, il change légèrement. Mais en général, le menu qu'on a, on le garde une semaine.
Même le soir, il est. C'est juste les intitulés restent les mêmes, c'est juste qu'on change de place. Les entrées deviennent plats ou les plats deviennent entrées. Ça, on garde quand même une base, la même base.
Et pour retenir ça, pour pouvoir être capable de le décrire aux clientes, aux clients, ça veut dire que vous vous entraînez comme des actrices à répéter. Vous faites des italiennes, vous répétez à toute vitesse ou vous visualisez chacun des plats?
On visualise les plats. On a un briefing le lundi. En fait, les premiers services, c'est le mardi. Le lundi, on a un briefing. Donc là, notre prof nous explique tout ce qu'il y a dans les plats. Et en fait, après, au fur et à mesure de la semaine, en voyant les plats défiler, en revoyant tous les jours le menu, à la fin, on finit par retenir.
Ouais.
On le sait, le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO en 2010. Et sa caractéristique, c'est que c'est un repas festif dont les convives pratiquent, dit-on, l'art du bien manger et du bien boire. Et l'art du bien manger et du bien boire, c'est aussi de savoir en parler. C'est un peu une spécificité des Français qui passent leur temps à parler de ce qu'ils vont manger, qui en parlent après coup pour raconter, qui pendant le repas continuent de discuter. C'est quelque chose qui est essentiel, que vous enseignez à vos étudiantes, à vos étudiants, l'art de décrire, d'annoncer, de faire saliver par les mots.
Tout à fait. Donc ça passe par une connaissance des produits. Ça suffit. Quelque chose d'assez compliqué pour les jeunes parce que, comme vous avez pu voir dans l'explication, il y a plein de produits nouveaux. Donc, deux semaines avant, on fait une approche, on fait la recherche de chaque produit, d'où ils proviennent, leur saison, et après on voit comment les produits sont faits, comment ils sont cuisinés, préparés, et après on essaie de trouver les mots, les adjectifs pour mettre en valeur et donner envie aux clients à manger ces produits. À les consommer. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des Saint-Jacques, il y a un autre produit qui est une soupe à l'oignon un peu revisitée, et la troisième produit qui est un tartare d'huître. C'est sûr que un tartare d'huître, à la base, c'est moins vendeur que des Saint-Jacques. Mais sur une table, il faut équilibrer les commandes. Et ça, c'est leur travail. Donc, c'est à nous de trouver les mots pour mettre en valeur ce tartare de Saint-Jacques qui soit aussi vendu que les huîtres. Et vice-versa.
Et alors, comment vous avez choisi de le renommer ?
Alors, on ne l'a pas choisi de le renommer. Donc, c'est une recette qui a été mise en place par M. Fréchon, qui est un grand chef français. Et dans le tartare de Saint-Jacques, dans le tartare d'huître, excusez-moi, il y a de la passion. Il y a une vinaigrette, il y a des fines herbes. Donc, on met en valeur ce produit-là. Et c'est une recette unique parce que ce sont des poireaux criants qui ont été brûlés. Et c'est une recette que l'on fait uniquement dans certains restaurants ou dans cette école. Que des Saint-Jacques, dans l'absolu, on peut en manger dans n'importe quel restaurant. Que cette recette, elle est unique.
On le sait, dans les restaurants, le soir, le repas de la Saint-Sylvestre, c'est aussi un moment important et très particulier, avec des menus très complexes et parfois très onéreux. Il y a un vocabulaire, un champ lexical qui est associé à cette soirée-là en particulier, qui est comme un deuxième réveillon, mais qui pour les restaurateurs est quelque chose de très particulier.
Alors, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est en général le jour où on va pouvoir mettre dans son menu des produits d'exception, du caviar, on va pouvoir mettre du foie gras, le préparer d'une façon différente. Je dirais, on va pouvoir mettre des Saint-Jacques, éventuellement du homard, de la langouste, suivant le travail du gibier, ce qui est assez rare et ce qui est assez aussi onéreux. Et en général, le Français, le gibier, il le mange que en période de fête, hein, pas beaucoup avant, pas beaucoup après. Donc, il y a la période de la chasse et c'est un peu complexe à cuisiner, donc il faut avoir des cuisiniers qualifiés. Donc la cuisine se fait plaisir, le service se fait plaisir. Pour faire plaisir aux clients.
Et comment on se fait plaisir alors ce soir-là pour le service ?
Pour le service ?
Votre partie.
Alors pour faire, alors on fait une belle table, une belle salle. Donc on va égayer la salle. En général, la tenue soit identique, on a une tenue un petit peu différente. Et on doit partager cette journée de bonheur avec les clients. On va présenter tous ces plats. Alors le foie gras, par exemple, c'est de savoir d'où il vient, de quelle région, où il a été travaillé par telle personne, de telle façon. Par rapport à des repères, si nous avons par exemple des Saint-Jacques, ben, on essaie d'avoir des Saint-Jacques d'Erquist, qui est un AOC, on donne une valeur ajoutée au produit de façon de le sublimer. Le chef le sublime, et nous dans la présentation, le client, on doit lui raconter une histoire par rapport à ces plats.
Dominique Houet, est-ce qu'il y a, alors qu'on voit vos étudiants en train de disposer la vaisselle, est-ce qu'il y a des secrets pour un événement, un repas de fête type celui donc de la Saint-Sylvestre en termes de mise en place de la table ?
Bah, essayer de faire une belle table, mais je pense qu'un des secrets, c'est de mettre, si c'est possible, un maximum de couverts sur table, de façon qu'on n'ait pas à se déplacer à chaque fois pour repositionner les couverts, de positionner en haut de l'assiette les couverts pour le dessert et de mettre les 2-3 verres qu'on a prévu le tout sur table, de façon de rester au maximum avec ses invités.
on n'a plus rien à faire. Voilà. Si tu n'as rien à faire, tu prends à côté de toi, tu viens faire couper, et moi je vais faire le canard.
Très bien.
Ça roule.
Ça roule.
Et tu vérifies. Alors vraiment toute ta technique la tienne, okay. C'est pas grave. Ok. Et tu contrôles bien ça.
Le chef.
Allô, Bernard, dans une heure, on installe son fourneau.
Oui.
Barthélémy, vous êtes le chef de semaine,
oui.
Chef de cuisine.
Oui, je suis en binôme semaine. Avec quelqu'un d'autre aussi, on est deux chefs de semaine. Non, bachelor. Deuxième année.
Étudiant de deuxième année, ouais. En art culinaire.
Gastronomie, c'est bachelor. Ouais.
Là, on est à une heure de la mise en place, une heure du service.
Non, en fait, le BAP, ce qu'on appelle, c'est la tradition du bien-aimé professeur. En fait, c'est-à-dire qu'on va servir les chefs avec ce qu'on envoie pour le service, pour leur repas, eux, du midi. Donc en fait c'est à 11h30, donc nous en fait on va manger à 11h30 aussi, et à 11h30 on envoie un prototype, disons, enfin la phase finale. Comme ça fait comme un peu un sas de sécurité pour les chefs pour vérifier au dernier moment l'assaisonnement, la l'onctuosité de la sauce, etc. Comme ça, et nous il y a un des deux chefs de semaine qui va manger au BAP, et il écrit tous les retours, ça manque de sel, la sauce plus onctueuse, etc. Et après, lorsqu'on revient, lorsque tout le monde revient d'avoir mangé vers midi, là où on va commencer le service, là on va pouvoir faire toutes les petites rectifications de dernière minute, et voilà, ça se passe comme ça. En fait, quand j'annonce une heure, c'est pas le service, c'est-à-dire qu'il va falloir que chaque partie envoie un plat ou deux suivant les quantités qu'il a, au chef. Donc là, je pense qu'ils seront 5-6 à manger suivi, donc il y aura chef Quentin, chef Casalta, et aussi des membres du plateau du 4e étage. Voilà, ça se passe comme ça.
Là, on est dans quelle partie de la cuisine?
Là, vous êtes en zone froide, donc en fait, la zone froide, c'est ce qu'on appelle le garde-manger. Le garde-manger, c'est là où toutes les préparations culinaires froides sont faites. C'est aussi un peu la légumerie. Après, on a des annexes. Donc, en fait, ici, c'est les entrées principalement qui sont envoyées, les entrées froides. Il s'avère que là, dans notre menu, on a une entrée froide. Donc là, c'est les poireaux avec tartare d'huître. Donc voilà, tout est élaboré ici et tout est renvoyé d'ici. Après, nous, là, par exemple, on a une sorte de talkie-walkie sur le mur qui nous permet de communiquer alors que nous, on est en cuisine. Parce que nous, on va être au pass. Voilà, ça fonctionne comme ça.
Morgane, vous avez un conseil pour ouvrir les huîtres pour le commun des mortels?
Pas vraiment, c'est que la deuxième fois que j'ouvre des huîtres, donc il faut toujours garder quelque chose dans la main pour éviter de se planter le couteau dedans au cas où ça rippe. C'est le seul conseil que je peux vous donner.
On vous regarde faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de malaxer?
Donc là, c'est une farce de joues de cochon. Et c'est pour faire de cannelloni de joues. Voilà.
Et votre camarade à côté de vous, on dirait qu'elle fait de la chimie des matériaux.
Exact. Donc en fait, c'est la peau de lard de cochon qu'on fait sécher et ensuite on fait frire. Et ça fait comme des chips. Et on peut mettre du croustillant pour voilà, donner un côté un peu plus salin, et c'est sympa.
Vous êtes de quelle origine, vous, Alba? On entend que vous avez un accent.
Espagnol.
Vous avez l'expérience des 31 décembre en France, et quelle différence il peut y avoir avec l'Espagne?
En Espagne, il y a, pour le 31, il n'y a pas vraiment de tradition culinaire. Il y a juste qu'on mange du raisin quand il y a les cloches, mais sinon, c'est des trucs bons, c'est du caviar et d'autres choses. Mais il n'y a pas vraiment un plat typique.
Vous avez un souvenir particulier d'un 31 décembre, une Saint-Sylvestre du passé?
Oui, avec la famille, on mange ensemble, voilà. On mange des gambas, de mon jambon, et après pour minuit, il faut manger 12 raisins, avec chaque clocher un raisin, et on dit que si on ne les mange pas, ça porte du malheur. On n'arrive pas à tous les manger, ça porte du malheur pour l'année qui arrive.
Cette peau blanche, c'est ce qui va donner ton amertume, d'accord? Non, le zeste, c'est vraiment le ziste. D'accord. C'est l'albédo, c'est ce qui va donner tout le, toute l'amertume. C'est pas bon, là. Ça va pas.
C'est du gratte.
Mais non, c'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Mais désolé. Hein. Tu vois, c'est hyper amer. En fait. C'est blanchi trois fois, rafraîchi, l'intérieur pelé à vif. En quartier, et après tu fais compoter. Là, regarde, t'as plein de blanc, ça va tout. Et tu l'as dit à quelqu'un de surveiller ça? Mais normalement, ça se fait à l'hiver. Hein. Le dessus, ça va jamais cuire. Hein.
Ouais. Guy Casalta, vous êtes ici le chef des étudiants de deuxième année en particulier, donc vous êtes le grand chef dans la chain of command, dans la hiérarchie de cette cuisine du restaurant Le 28 de l'école Ferrandi. Vous avez le souvenir, vous, grand chef, de repas marquants de la Saint-Sylvestre?
Alors moi, j'ai travaillé en Autriche, en Angleterre. Je trouve que la tradition de Noël était... Enfin, pardon, la Saint-Sylvestre était peut-être un peu plus répandue là-bas. Mais cet esprit un peu de Noël, Saint-Sylvestre, ouais. Après, c'est beaucoup plus festif. Hein. C'est festif, c'est un moment où on peut se lâcher, c'est vrai, un petit peu plus en cuisine.
Alors vous me parlez de l'Autriche, on sait que Nietzsche, par exemple, le philosophe allemand, aimait beaucoup la Saint-Sylvestre parce que c'était un moment où il se tournait vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on mange en Autriche le soir de la Saint-Sylvestre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui a pu marquer votre bouche, vos papilles?
Alors moi, je travaillais dans des relais châteaux étoilés de Michelin. Donc en fait, c'est un peu partout pareil, même si c'est marqué tradition. Beaucoup de gibier en Autriche, ils aiment beaucoup la pomme de terre. Mais c'est comme dans tous les grands établissements étoilés, c'est... foie gras, ce genre de gibier, crustacés, prestige quoi. Homard, langouste, c'est partout pareil dans ce type d'établissement.
Et vu votre expérience, pour vous en fait c'est un peu banal, c'est votre quotidien, tous ces plats. Si vous aviez le choix parmi tout ce qui existe pour votre un repas comme celui-là?
Question piège. Non, moi je travaille pour des clients, pour leur donner du plaisir. Là on ne pensera pas à nous. On est toujours comme ça en cuisine. Hein. C'est donner du plaisir aux clients. Et eux, les clients, s'ils veulent, c'est s'amuser. Et on va, je me répète, hein, c'est toujours foie gras, gibier, genre de choses. Des produits un peu festifs. Et truffes, même si c'est pas la saison.
On va
faire
deux fois parce que ça va y aller.
Ça fait du bien.
En général, t'en as pour 5 minutes. Tu passes non-stop. Une fois que c'est fait, on va les rincer directement dans l'eau. On les met en passoire, on laisse écouter et là, on branche avec la bécane.
Exact.
Ça te va?
Ok. Vous êtes Emma Lena?
Exactement. C'est bien, c'est marqué.
Emma Lena, quelle est votre fonction dans la brigade aujourd'hui?
Aujourd'hui, moi, je suis commis. Je suis les ordres de Marguerite Girard, c'est ma tête de partie, qui est sur le poisson. Voilà.
Et là, qu'est-ce que vous faites
Là, je lui fais ça, je les fais braiser. Donc, c'est des choux bob soy. Et après, ce sera la garniture du poisson, donc c'est du mieux jaune. Tu vas juste être cuit, saisie avec la peau pour qu'elle soit croustillante. Et ensuite, on va la juste mettre au four à 120 degrés.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cet apprentissage, en particulier pratique ici dans la cuisine?
Le plus difficile, c'est d'emmagasiner le maximum de savoir, entre guillemets, de bien savoir écouter les chefs, de bien prendre leurs conseils en compte. À l'école ça va, c'est quand même assez facile, on est vraiment encadré. Ce qui est le plus compliqué pour nous en deuxième année, c'est qu'après on part souvent en stage. Donc là on est un peu livré à nous-mêmes et c'est à nous de nous bouger les fesses. Voilà.
Le 31 décembre, c'est un peu comme le deuxième réveillon et dans ces repas de fête là, ces repas de famille, oui. La famille entière se transforme en brigade. Chez vous, pour une soirée comme celle du 31 décembre ou un repas de Noël, qui fait quoi dans votre famille?
En général, c'est plutôt mes grands-mères qui cuisinent. Ma mère touche très peu au fourneau. Mais en général, ouais, c'est plus ma grand-mère et moi. Et puis les papas sont à table. Ils attendent qu'on leur fasse à manger. Mais après, c'est vraiment sympa comme moment en famille. Il n'y a que des filles en cuisine, mais c'est super sympa.
Mais alors non seulement vous faites de la technique gastronomique, culinaire, ici à Ferrandi, non seulement vous faites de la géographie pour savoir sourcer, tracer vos produits, Est-ce que vous faites aussi un petit peu de physiologie, de santé, parce qu'on se dit que les repas de fête, je ne sais pas si c'est très bon, là vous nous faites des choux qui sont délicieux pour la santé, mais est-ce qu'un repas de fête type réveillon, c'est dangereux pour la santé?
C'est pas dangereux pour la santé, c'est comme quand on mange sucré, pour manger avec modération, mais ici ils nous apprennent vraiment le travail du produit, on a des cours de sciences appliquées, avec de la diététique, avec... comprendre déjà les règles d'hygiène par rapport à tous les produits. Et en plus de ça, ils nous apprennent vraiment voilà, tout ce qui est graisse, tout ce qui est produits naturels, à ne pas prendre de produits déjà transformés, donc on ne connaît pas forcément la provenance. Donc voilà, pour le coup. Après, c'est vrai que les repas de Noël, il faut faire attention. Les repas de Noël, de 31, c'est souvent là où on fait les plus gros excès, mais après, il va falloir manger des soupes en fait. Ce sera déjà plus sympa pour le corps. Puis faire du sport, c'est surtout ça.
Vous en faites là?
Là j'en fais. Mais sinon nous en tant que cuisinier, on n'a pas non plus énormément de temps pour nous à côté pour faire du sport. Parce que sur les jours de repos, on n'a pas forcément envie d'aller transpirer et faire du sport. Voilà.
Merci.
On va travailler votre ganache un petit peu pour l'arrondir. Donc on désinfecte bien son marbre, vous récupérez votre triangle, votre palette coulée, et on va légèrement taser notre ganache pour lui donner la texture et pouvoir la cocher. Je vous fais la démo. Vous essuyez bien votre marbre après.
Ça sent bon, là. Ah bah ouais,
là, c'est marbre. Non, je vais pas faire ça. Vous préparez une poche avec une bulle numéro 10.
Monsieur, pourquoi dans celle-là, on a mis du sucre inverti et pas du glucose?
Parce que le glucose, l'autre jour, c'était pour faire la ganache en visuel et avec un beau brillant. Là, le sucre inverti, il joue le rôle de conservateur et de liant au niveau de tes matières. Et ça va permettre de garder aussi l'onctuosité de ta ganache dans le bonbon. À éviter que ta ganache se dessèche dans le temps pour une meilleure conservation. D'accord ?
Jules, on est ici dans votre atelier de pâtisserie où vous êtes en formation connexe. Ça veut dire que avant de venir ici à l'école Ferrandi faire cet apprentissage de pâtisserie, vous aviez déjà une formation professionnelle?
Oui, c'est ça. Personnellement, j'ai fait un bac pro cuisine en 3 ans. Après, il y a eu des boulangers, d'autres cuisiniers, où il y en a d'autres qui ont suivi une formation plus poussée, comme le BTS. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut voir les différents niveaux, tout ça, partager entre nous.
Ça veut dire qu'avant d'arriver ici, avec le bac pro cuisine qui est le vôtre, vous aviez jamais fait véritablement de la pâtisserie?
Si, pendant mon cursus en cuisine, j'ai pu découvrir vraiment quelques bases en pâtisserie et tout ça, mais pas aussi poussé qu'un vrai CAP. C'est pour ça que j'ai voulu poursuivre et approfondir ces bases pour vraiment acquérir le nécessaire pour après pouvoir développer autour de ces bases. Parce que on dit souvent être créatif, c'est bien, mais sans les bases, on peut pas être créatif en fait.
Et là, vous perfectionnez. Je crois qu'on dit que dans les séries télé, dans les bons films, il faut que le héros il réussisse à faire des choses qu'il ne sait pas faire au début de l'histoire. Vous, qu'est-ce que vous ne saviez pas faire en arrivant ici et que vous avez appris?
Pour l'instant, à peu près tout, parce qu'on voit des choses vraiment intéressantes et tout ça. Et je découvre depuis le début, en fait.
Mais qu'est-ce qui était particulièrement peut-être ardu, difficile?
Le travail du chocolat, tout ça, la maîtrise des textures dans les différentes pâtisseries. En cuisine, en fait, les pâtissiers sont beaucoup plus précis que... les cuisiniers. Donc,
Vous avez le souvenir d'un repas ou d'une pâtisserie un soir du 31 décembre ou de réveillon de Noël? Il y a quelque chose qui a pu vous marquer dans votre enfance?
Souvent, oui, c'est les bûches de nos grand-mères, les bûches crème au beurre de nos grand-mères. C'est bon, mais des fois, c'est un peu lourd. Et souvent, la nouvelle génération de pâtissiers, elle recherche ça, elle recherche tout ce qui est des desserts plus légers, moins sucrés, moins gras. Et la nouvelle génération, elle est plus de ce côté-là.
Et du coup, vous regrettez la bûche au beurre de votre grand-mère?
Un petit peu, oui, mais je suis avide de découvertes aussi, de nouvelles découvertes en pâtisserie. Donc...
Clémentine, là, on est face aux pâtisseries que vous avez préparées.
Exactement, c'est les bûches de Noël qu'on a réalisées cette année. Donc, en suivant des recettes de grands chefs, c'est une bûche à amandes, trois fruits rouges et vanille.
Et alors, c'est un grand pâtissier historique, on vous rebat peut-être les oreilles avec lui, Antonin Carême, qui disait que la pâtisserie, quand il s'agissait d'une pièce montée, et là, en l'occurrence, quand on regarde votre bûche, ça s'apparente aux beaux-arts. Qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans votre travail?
Mais tout est artistique, c'est-à-dire qu'à partir des bases de la pâtisserie, des biscuits, de toutes les crèmes, on va créer donc des montages pour avoir un visuel qui est beau déjà à regarder. Ensuite, avec les crèmes, on va créer des pochages, avoir une forme aussi. Et avec le chocolat, le travail du chocolat et de la couleur, on peut donner toutes les formes artistiques à un gâteau, donc une base toute simple qui va se transformer en une œuvre d'art avec le travail du pâtissier.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre d'art?
Alors, vous avez donc un streusel, donc une base croustillante à l'amande, un moelleux vanille amande, un insert trois fruits rouges, donc fraises des bois, fraises et framboises, une mousse à la vanille et un crémeux aux amandes.
Et pour ce qui est des couleurs et de la forme, si on reste dans les beaux-arts?
Alors, les couleurs et la forme, vous avez une vague de chaque côté qui va être en bicouleur, donc ça va être du blanc et du rouge, toujours pour rappeler les couleurs de Noël. Voilà, et sur le dessus, on a passé un pistolet juste à peine rosé pour rappeler un petit peu le rouge des fêtes, mais sans que ce soit trop foncé non plus. Donc on avait l'aspect esthétique, donc le travail sur la couleur, l'aspect et le visuel. Et après, tout ce qui est travail donc, de l'intérieur, pour ce qui va être des textures, le moelleux, le croustillant, le fondant. Et tout ça va être un travail justement qui est plus justement le travail de la science. On travaille avec la gélatine, on travaille avec différentes textures. Et il faut savoir contrôler ces textures. Et bien les gérer pour avoir un gâteau qui est bien uniforme et homogène. Du coup, on a essayé de travailler avec la vanille, les fruits rouges pour amener un petit peu plus de peps. Toujours garder la douceur de la vanille et de l'amande, avoir la gourmandise, mais avoir aussi l'acidité du fruit pour être plutôt frais et avoir une bûche qui, en fin de repas, va pas être trop lourde, justement, pour finir le repas tout en légèreté.
C'est quoi le dessert, la pâtisserie pour une Saint-Sylvestre?
Pour une Saint-Sylvestre. Toujours un dessert gourmand, alors avec un visuel vraiment spectaculaire, parce qu'en fait la nouvelle année, tout le monde se fait beau, tout le monde est sur son 31. Donc autant avoir un dessert qui clôture le repas et qui soit aussi beau que la fête et que les invités. Donc voilà, un dessert tout en visuel, mais tout en gardant les goûts et la gourmandise. Donc pourquoi pas cette bûche, tout à fait. Même si la bûche c'est surtout réservée donc au réveillon et à Noël, mais pourquoi pas avoir aussi une bûche, si possible travailler en une autre forme, toujours pour le réveillon.
Mais alors du coup, qu'est-ce que vous feriez, vous?
Mais pourquoi pas retravailler cette bûche, toujours garder les mêmes bases, avec de l'or, quelque chose de doré, toujours dans les paillettes, dans la fête. Donc toujours un peu de rouge peut-être, puisqu'on est toujours en fin d'année, et ramener de la paillette, de la couleur pour faire plus festif.
Thank you. pour 25 minutes à peu près. Et après, vous pourrez les entrouvrir pour les finir de sécher. Mmh. Ok. Vous vouliez du son ? Et vous voulez goûter ?
Ça m'a avancé, oui.
Donc là, voilà, c'est... Maintenant, on leur fait des recettes, on sort un peu de l'examen. Donc là, on leur fait des recettes avec des techniques un peu plus poussées, style avec le pouliche, le vin de pâte, le vin levure, des choses qui sont un peu plus techniques. Ça se voit pas sur la forme de la baguette, la couleur de la baguette, ça reste toujours une baguette, mais au niveau des goûts, des conservations, voilà, on apporte des plus. Et donc, on voit ça, voilà. Il n'y a rien qui ressemble plus à une baguette qu'une autre baguette, mais il y a plein de techniques différentes qui peuvent être développées pour développer des goûts, des arômes et des avantages de conservation de produits ou pas.
Christophe Moussu, vous êtes professeur ici dans cet atelier de boulangerie où les étudiants sont en reconversion professionnelle. On discute de la nouvelle année comme justement ce moment où on se tourne vers l'avenir, on se réinvente et on imagine tout ce qui est possible. Pour chacun de vos élèves, c'est aussi se réinventer, d'être en reconversion. Et ils choisissent la boulangerie. En quoi la boulangerie, c'est l'avenir? Parce que c'est déjà l'Antiquité. Je ne sais pas, c'est Homère qui disait qu'on était des mangeurs de pain, les humains. En quoi c'est l'avenir, la boulangerie?
L'avenir, c'est... Il y a un renouveau. On a fait, il y a eu, on va dire, les années 80-90, une uniformisation un peu de la production. Et donc là, maintenant, on revient un petit peu. On refait ce qui a été fait, mettons, dans les années... Donc 1930, voilà à peu près à ces époques-là, des pousses plus lentes, plus longues, jouer sur les arômes, sur les conservations un peu des produits. Et voilà, il y a tout ce renouveau qui revient. Et donc là, c'est des techniques, c'est pas des machines qui font tout ça. D'accord ? Donc faut ressentir le pain, faut ressentir les farines. Ma farine, elle est comme ci, elle absorbe de l'eau, elle n'en absorbe pas, la météo est comme ci, comme ça. Il faut tout le temps être en train de moduler, de... Voilà, c'est un produit qui est vivant. Qui est vivant. Et donc, voilà, on veut faire plus. Il y a des grandes idées, il y a des grands principes. Mais après, il faut tout le temps être en train de... C'est pour ça qu'il n'y a pas une recette de pain. Il n'y a pas une recette de pain. Du 1er janvier au 31 décembre, le boulanger est tout le temps obligé de moduler son travail pour essayer d'avoir un produit le plus uniforme possible pour la clientèle, parce qu'elle aime bien. Voilà, il arrive à développer tel ou tel goût. Mais c'est vraiment très délicat d'arriver à amener ce côté, cette régularité. C'est ça la difficulté, que du 1er janvier au 31 décembre, ce soit le plus régulier possible pour le client. Mais les conditions changent tout le temps, donc le boulanger est tout le temps en train de changer sa manière de faire.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Une petite décoration sur un pain, on n'a jamais fait, c'est un pain au chorizo, au fromage. Vous voulez faire une décoration un petit peu pas traditionnelle? Ouais, j'ai pris des formes géométriques. Et Mélanie, elle part sur un bambou. Ouais, il sort à s'amuser, il nous reste du temps avant la fin du TP.
Vous, Jérôme, vous êtes en reconversion ici à l'école Ferrandi. Ici, vous êtes en boulangerie. Si vous retournez sur l'année qui s'achève, ouais. Quelles sont les grandes choses que vous avez accomplies cette année?
J'ai fait ma crise de la cinquantaine à 35 ans. Et j'ai démissionné, je me suis inscrit ici, passé les entretiens. Et puis j'apprends. Et puis l'année prochaine... une nouvelle vie commence, quoi. Enfin, ça a déjà commencé en fait. Je suis encore plein d'espoir. On verra au prochain nouvel an.
Voilà. Et justement, le nouvel an, c'est un moment incroyable où tout est possible et où on se dit qu'est-ce que je vais bien faire de moi à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire de vous en passant par ici, par Ferrandi, pour votre reconversion ?
Apprendre l'art de pétrir le pain, le comprendre et le façonner correctement, créer des nouveaux produits et monter ma boulangerie ensuite, prendre le plus d'expérience ici, ensuite avec mes expériences personnelles aussi, et monter un business le plus rapidement possible.
Voilà. Parce que votre vie d'avant, dont vous avez démissionné, en tout cas professionnelle, c'était quoi ?
J'étais ingénieur dans la construction. Ouais, j'en avais marre de changer de vie vraiment. Donc, quitter le monde de l'entreprise, de la grande entreprise, et être à mon compte, et gérer des employés, des petits problèmes. Et je voulais que chaque petit effort qui soit fait amène une amélioration qu'on puisse voir tout de suite. Et pas en entreprise, c'est noyé entre 10 000 employés, on ne se rend pas compte de. Il y a une sorte de perte d'énergie, d'efficacité. Voilà, bon, c'est un peu le discours de tous les gens qui font une reconversion, qui partent d'une grande entreprise et qui veulent monter leur business et ils veulent être impliqués dans le produit qu'ils font. Et puis.
Et comment vous avez pris cette décision-là ? C'était un 1er janvier, plein de bonnes résolutions que vous avez décidé ?
Je ne suis pas très nouvel an au 1er janvier. Non, c'est. Petit à petit, en regardant ce qui se fait, en essayant de s'inspirer de différentes choses. J'avais d'autres idées aussi, mais voilà, je me suis dit, boulangerie, c'est parti. Et je veux faire ça à l'étranger, donc jouer la carte française avec mon accent français quand je parle anglais. Donc voilà, essayer dans cette voie. Quoi.
Et vous allez aller où alors à l'étranger ?
Pour l'instant, peut-être j'ai Amsterdam ou Copenhague. Ensuite. Tout peut changer, hein, mais je m'oriente là-dessus. Quoi. Je commence mon business model et business plan là-dessus.
Mélanie.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Mélanie, vous avez dessiné un bambou sur votre pain à vous.
Ouais.
Alors pourquoi ?
En fait, j'ai juste tapé sur internet pochoir et il y a un pochoir de bambou qui était sympa, donc du coup, j'ai juste redessiné. Et... sur mon pain. Rien de bien, aucune signification particulière.
Mais alors si aujourd'hui vous êtes en reconversion ici en boulangerie à l'école Ferrandi, ça veut dire que vous avez tapé reconversion sur Google et ce qui est sorti c'est Ferrandi ?
Pas du tout. Je fais pas ça pour tout, non. Moi je voulais me reconvertir en boulangerie et dans les écoles que j'ai vues c'était vraiment Ferrandi qui était la meilleure, qui avait les meilleurs profs. Des expériences des gens qui étaient déjà venus là aussi ont beaucoup aidé à choisir cette école. Donc voilà, je me suis retrouvée là, mais c'est pas du tout une recherche Google.
Alors reconversion, ça veut dire que vous avez une vie avant, et pourtant vous êtes très jeune, qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'étais en licence de chinois, et je travaillais en même temps à McDo. Et comme ça fait 5 ans du coup depuis que j'ai commencé ma licence que je travaillais à McDo, j'ai pu demander une reconversion, même si j'ai vraiment jamais été dans le monde du travail. Enfin, c'était juste un temps partiel, donc ça compte pas tout à fait comme une vraie expérience.
Et il y a des points communs entre le fonctionnement d'un restaurant McDonald's et une grande école de gastronomie comme Ferrandi ?
Pas vraiment, à part le produit désinfectant, il n'y a pas grand chose en commun.
Qu'est-ce que vous projetez, vous pour cette nouvelle année qui s'annonce, à partir de cette reconversion que vous accomplissez aujourd'hui à l'école Ferrandi, Mélanie ?
Déjà pour cette année, pour l'année qui va venir, avoir le CAB, puis après engranger assez d'expérience pour pouvoir ouvrir ma boulangerie à la fin. Et comme je vous ai dit, j'ai fait une licence de chinois, donc moi l'idée ce serait d'ouvrir une boulangerie en Chine en fait.
Et ils ont quel rapport au pain ? Parce qu'on a l'idée qu'il y a des fameuses brioches chinoises. Vous êtes un peu attentive justement au rapport des Chinoises et des Chinois au pain ?
Oui, alors ils aiment beaucoup ça déjà. Enfin, tous les Chinois qui sont venus en France et qui ont goûté le pain français, ils adorent ça et ne comprennent pas pourquoi en Chine c'est quasiment impossible d'en trouver. Parce que ce qu'ils vont avoir, ça va être plus des baguettes qui ressemblent à des baguettes viennoises ou du pain de mie. Donc voilà, la baguette française, très rare. Et non, ils aiment beaucoup ça et ça change vraiment de ce qu'eux ont. Leur petit pain, c'est à base de farine de blé, mais ça va être blanc, ça va être cuit soit dans des fours en pierre dans le sol ou à la vapeur. Donc ça a vraiment rien à voir avec le pain français. Quoi. Et, non, ils aiment bien.
Mais donc le bambou, c'était pas un hasard finalement pour la décoration de votre pain, Mélanie ?
Peut-être que j'aime bien en fait les choses qui viennent d'Asie.
C'est le destin ?
On peut dire ça.
Vous nous décririez votre matériel, justement votre four, parce qu'on n'est pas vraiment avec un four à pain traditionnel chinois là.
Non, alors rien à voir. C'est un four à sol ici, donc ça chauffe C'est la chaleur vive qui va sortir de chaque four, ouais, de chaque étage, en bas et en haut du four en fait. Et notre four a la particularité qu'on puisse régler différentes températures sur chaque four, en bas et en haut. Donc là, comme vous voyez, c'est 266 en haut et juste en dessous, c'est 259. Donc c'est le plancher du four et le... C'est vrai quoi.
La sole et la voûte.
La sole et la voûte, voilà, merci. Et donc en fait, ça va donner une puissance au pain pour qu'il puisse gonfler et ne pas être tout plat.
Ok, on se fait une étiquette.
On a fait une étiquette de riz. Ah oui. On fait une étiquette blanche. C'est ça qu'il voulait dire.
Vous dites, Christophe Moussu, qu'on revient à la façon de faire de la boulangerie des années 1930, où on respectait peut-être davantage le caractère vivant et le temps nécessaire à la production du pain. Cette école Ferrandi, elle a été fondée, je crois, en 1920. Ça veut dire que Il y a des fantômes de l'école Ferrandi qui viennent vous hanter.
Oui, il y a des photos un peu qui sont dans les vrais fours, enfin les vrais, les fournils à l'ancienne où il y avait vraiment qu'un seul four, c'était la pièce maîtresse. Hein, le boulanger travaille dans un fournil. La pièce maîtresse, c'est le four. C'est là où toute la transformation de ma pâte va devenir du pain à ce niveau-là. Et donc c'est la pièce maîtresse. Et d'ailleurs, pourquoi il commence à telle heure ou à telle heure du matin, c'est je veux cuire ça à telle heure. Et après, bah, il réfléchit à je dois laisser tant de temps pour l'après, tant de temps pour faire ci, tant de temps pour faire ça. Donc, j'ai besoin de pétrir à telle heure. Il ne décide pas, tiens, je me lève à minuit parce que j'ai décidé d'être à minuit. Non, c'est parce que mon pain, cette recette-là, il faut tant de temps pour faire ci, tant de temps pour faire ça. Il faut que ça rentre au four à telle heure. Et bien, il repense en sens inverse. Il faut que ça sorte à telle heure, donc il faut qu'il repense sa journée à rebours. Et donc ça lui fait décider de bah, il commence à 4 heures, il y en a qui commencent à minuit, d'autres qui commencent à 1 heure. Voilà, parce qu'il repense le four pour que ce soit cuit à telle heure. C'est la pièce maîtresse. Donc on voit des photos, des anciennes photos où ils mettent au four à la pelle. Donc là maintenant il y a des techniques un peu plus faciles qui ont facilité les tâches, le fait de soulever des poids lourds. Là, on est, voilà, il y a des choses qui ont facilité. C'est pour ça que, enfin, une des raisons pour laquelle ben, des personnes un peu plus frêles, donc les femmes, arrivent plus facilement à faire de la boulange. Parce qu'il y a moins forcément d'être grosse brute, il y a des choses un peu plus délicates. Et bon, ben, il y a des moments où ben, il faut envoyer, comme là tout à l'heure, quand vous étiez arrivé, ben, il fallait se dépêcher parce qu'il fallait mettre au four maintenant. Maintenant, ça devient un petit peu plus calme parce qu'on est dans les moments de cuisson. Et voilà, après, ben, ils vont attaquer le nettoyage et tout ça.
Alors, on a l'idée de ce à quoi ça ressemble les 10 dernières secondes de l'année, le 31 décembre. Quand on est dans une fête en famille ou avec des amis, qu'on est un peu ivre, qu'il y a des cotillons, du champagne, ça ressemble à quoi dans une boulangerie ce moment où apparemment, c'est pas l'année qui se termine, c'est la journée qui commence.
Oui, donc oui, bah là, il y a toute l'histoire un peu, chacun a ses histoires comme ça, où ils ont fini le réveillon et puis à peine une heure après, il fallait qu'ils retournent au fournil, et donc la tête un peu dans le brouillard, et faut quand même refaire un peu de la production. Donc voilà, c'est des journées qui sont pas faciles, hein, des 10, des 15, des, quelquefois des 20 heures dans cette période-là, c'est courant, quoi.
Et il y a des rituels pour le fournil, pour le feu, pour le pain, pour le boulanger, quand on commence sa journée de travail?
Des rituels... Non, on réfléchit maintenant. Eux, on leur apprend de plus en plus, donc on les laisse partir un petit peu sur tous les côtés. Mais en entreprise, ils ont ça en tête, leur organisation, il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, d'accord. Donc ils ont tout leur organigramme un petit peu déjà dans la tête, ils déroulent leur journée toujours de la même manière, d'accord. C'est un métier, voilà, même si les conditions changent, ça reste un métier monotone parce qu'il faut arriver à dérouler sa journée. Et si on la commence mal, en général, ben c'est tout qui va s'enchaîner. Il n'y a pas le coup de feu comme il peut y avoir en cuisine. D'accord, où on prépare et puis tout d'un coup il y a le service et là tout. Non, nous on déroule notre journée. On déroule notre journée pour arriver en temps et en heure pour que tout soit bien calé, pour que le produit soit bien comme il faut.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Une année s'achève, une autre s'apprête à commencer. Il est l'heure de retrouver Sophie Bobert pour sa leçon de choses avec le galeriste Kamel Menot.
Bonjour Kamel Menot.
Bonjour.
Kamel Menour, je vous retrouve ici à Paris, dans votre galerie de la rue Saint-André-des-Arts. Mais ce n'est pas à Paris que vous êtes né. Vous êtes né en Algérie, à Constantine.
Ouais, la ville du pont, ce fameux pont qui relie les deux falaises. Et à l'âge de 2 ans, ma mère a rejoint son mari dans le cadre du regroupement familial.
Vous vous êtes retrouvé du coup en plein Paris, à Belleville, je crois.
Exactement, dans le haut de Belleville, à Ménilmontant exactement.
Quels sont vos souvenirs de Belleville de l'époque et de l'école que vous avez fréquentée du coup tout petit, dès la maternelle je crois?
Absolument, c'était dans le haut de Belleville, c'était rue Olivier Métra exactement, et j'ai un souvenir assez merveilleux, puisque pour moi l'école c'était aussi une grande rue qui nous permettait, juste à une cinquantaine de mètres, de pouvoir jouer au foot devant l'école, à taper pendant des heures et des heures sur le mur de l'école. Est-ce que c'était une manière de fouetter, ou en tout cas de brutaliser l'école qui allait nous faire grandir, nous élever, nous cultiver?
De défier l'école?
Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce mur de l'école, on l'a tapé des centaines, pour voir dire des milliers de fois.
Mais est-ce que vous étiez un bon élève, hein, Kamel Menour, hein?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a donné l'envie de l'école. J'étais, je crois, premier ou deuxième de la classe.
Alors, il y a cette phrase que j'ai lue de vous dans Les Échos. Vous disiez « Un bon galeriste aime l'instabilité, est insomniaque, hein, et ne craint pas l'échec, hein. ». Est-ce que vous étiez comme ça déjà?
Alors déjà, je pense que c'est une vraie définition. Je ne sais pas quand je l'ai sortie, mais je crois beaucoup à ça. L'insomnie, c'est quelque chose de très fréquent chez moi, de réfléchir, de penser, de se projeter, d'envisager les futures expositions sans trop savoir ce que tu vas avoir, donc d'où cette instabilité. Et cette appréhension de l'échec, elle est finalement très présente chez moi. J'aime cette idée de l'échec, du ratage, quelque part. Créer, en tout cas accompagner la création, c'est en partie envisager le fait que ça puisse ne pas marcher. Et d'ailleurs, souvent, il y a une part de poésie dans le fait de tomber. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui permet de, tu vois, comme disait Rudyard Kipling, reconstruire mon fils. Hein, c'est se dire que quelque part, tu tombes, mais tu vas te relever. J'aime ça. Tu vois, j'ai eu un bac avec une mention passable. Donc, tu vois, alors que si j'avais senti ou j'avais pu travailler peut-être un peu plus, j'aurais mais ce qui me permettait de faire quelque chose, puisque je ne savais pas ce que j'allais pouvoir envisager dans ma vie future. C'est très tard, finalement, c'était en maîtrise d'économie que... Le champ, le territoire de l'art s'est ouvert à moi.
Vous n'avez pas découvert la peinture plus tôt ?
Non, en fait c'est un accident. Moi, jusqu'à 22, 23 ans, j'étais jamais rentré dans une galerie. Je connaissais absolument pas les musées. J'étais pas du tout dans ce monde. Je lisais pas des livres d'art ou j'étais pas du tout attiré par ça.
Ce qu'il y a, je crois, cette peinture de Delacroix, la mort de Sardanapale, pour laquelle vous avez une fascination particulière, hein, qui se trouve au Louvre.
Vous me donnez des frissons, parce que je me disais, pourquoi elle me parle de Sardanapale ? Parce que pour moi, Sardanapale, c'est tout, c'est un absolu, ça fait partie de mes balades. Un de mes artistes a fait une exposition au Louvre, il y a une dizaine d'années, c'est l'artiste Wang Yongping. Et donc j'ai beaucoup visité le Louvre à l'époque, et c'était quelque chose qui me nourrissait. Et le Sardanapale, pourquoi ? C'est un tableau que j'ai eu le sentiment de connaître d'une autre vie. Un tableau que je découvrais, que j'avais dû voir inconsciemment dans les reproductions, mais qui pour moi m'appartenait. Donc le Sardanapale, pour moi, quand j'ai des moments où j'ai des pertes de ressenti ou d'envisager les choses dans quelque chose qui me permette d'avancer, je vais voir le Sardanapale.
Et vous, Kamel Mennour, si on vous qualifie d'explorateur, hein, est-ce que ce terme vous va ?
Ouais, explorateur, effectivement, peut-être une sorte d'interface entre ce qu'on montre, l'atelier, la genèse, et permettre de faire dire aux œuvres. En tout cas, accompagner, être un des maillons. Explorer, effectivement, parce que j'aime cette idée que finalement on ne sache pas et qu'on essaie de dire et de recevoir ensuite.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2018, hein ? Quel serait le vœu idéal, hein ?
Profiter au maximum de la vie.
Merci Kamel Mennour.
Merci.
Kamel Mennour répondait aux questions de Sophie Bobert. Rue des Écoles, une émission préparée avec toute une brigade. Marie Dalquier, attachée d'émission, réalisation Somanina, à l'animation Martin Kénéen et à la prise de son sur le terrain, en blouse blanche, Antoine Gerbeau. Rue des Écoles se réécoute, se partage, se déguste sur franceculture.fr. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.